Bonjour. Ça fait plaisir de se retrouver avec vous, là, après quelques semaines d'absence, se retrouver en famille. Ce matin, on a déjà parlé un peu de Pentecôte, la date oblige. On va continuer à en parler, mais d'abord, prions. Seigneur, nous voulons te remercier tout d'abord pour ce ministère des Gédéons. Nous te remercions pour cette parole distribuée parce que ton esprit peut travailler dans le cœur des personnes qui la reçoivent, Seigneur, seulement par sa puissance et par la lecture. Et Seigneur, maintenant, veuille nous rendre attentifs à ta parole. Amen. Or, Pentecôte. Pentecôte, c'était un moment où les disciples, les apôtres étaient réunis et puis ils attendaient. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit que Jésus leur avait promis. Et parfois dans la vie, souvent dans la vie, il faut attendre. Il y a deux façons d'attendre. La bonne et la mauvaise. On va commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est attendre quelque chose qu'on ne veut pas faire ou qu'on ne veut pas avoir. Et alors, on commence à angoisser dans cette attente. Puis la bonne, c'est d'attendre quelque chose qu'on veut faire ou quelque chose qu'on veut avoir et attendre avec espoir, dans l'espoir que ça arrive. Et je pense que les disciples réunis étaient plutôt dans cette attente-là. Quand Jésus est retourné au ciel, il a confié une nouvelle mission à ses disciples. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais comment allait-il faire pour accomplir cette mission-là? Et dans le livre des Actes, au premier chapitre, tout de suite, on a une réponse. Jésus leur avait dit aussi, attendez à Jérusalem ce que le Père avait promis. Et ce que le Père avait promis, c'est au chapitre 8, tout de suite après, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et sur vous serez mes témoins, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Entre le départ de Jésus et la venue du Saint-Esprit, il y a eu une dizaine de jours. 10 jours d'attente, pleine d'espoir. Et moi, j'imagine bien les disciples se demander ce qui allait se passer. En attendant, ils ne savaient pas encore qu'ils allaient être témoins le jour de la Pentecôte de la naissance de quelque chose de nouveau. Ils allaient assister à la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est cet anniversaire-là qu'il est intéressant de célébrer. Alors on va lire ensemble le deuxième chapitre des Actes. On les appelle les Actes des Apôtres, je pense qu'il vaudrait mieux les appeler les Actes du Saint-Esprit. Bon, c'est un peu long comme texte, mais on va le lire entier. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, en séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut. Elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, Voici, ces gens qui parlent ne sont pas tous galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. De vin doux, c'est pas encore l'époque, non? Enfin. Alors Pierre se présenta avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le ciel-soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Ainsi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de la joie de ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est pas monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pardon. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Bon, alors, on ne va pas étudier le chapitre en détail. J'en ai juste retenu 4 thèmes. D'abord, l'Église équipée. Ensuite, l'Église unie. Puis l'Église qui évangélise, et enfin l'Église qui grandit. Or l'Église, bien sûr, ce n'est pas le bâtiment. Hein. L'Église, ce sont ceux qui se sont repentis et qui croient vraiment en Jésus. L'Église est grande. Et notre petite Église, ici à Semra, n'est que l'expression locale de cette grande Église de Christ. Mais il faut surtout parler de l'esprit. Et en quelques mots, je vais résumer ce qu'est l'esprit. Et nous verrons par la suite en partie ce qu'il fait. Alors il y a, je pense, deux choses importantes à préciser concernant l'Esprit Saint. Premièrement, l'Esprit Saint, c'est une personne. Et deuxièmement, l'Esprit Saint est Dieu. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins les films de Star Wars. Dans ces films, il est question de la force, une énergie qui entoure tous les êtres vivants. Cette force donne aux héros de l'histoire leur pouvoir. Et certains chrétiens pensent que le Saint-Esprit, ressemble un peu à cette force de Star Wars. Il donne certains pouvoirs aux chrétiens, mais pour finir, ce n'est qu'une force, impersonnelle. La Bible ne voit pas cela de cette façon. L'Esprit Saint est une personne. Alors, rapidement, quelques versets. Dans Éphésiens 4, au verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, on ne peut pas attrister une force. On attriste une personne. C'est ce que la Bible nous dit par là. Et Jésus nous dit en Jean 15, au verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le mot « consolateur », ça parle d'une personne avec des émotions, des sentiments. Parce qu'il est bien difficile de consoler une autre personne sans compatir avec elle. Et là encore, une force impersonnelle ne peut pas compatir avec qui que ce soit. Et puis au chapitre 16, au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Les verbes que Jean utilise, « conduire »,« parler »,« dire »,« entendre » et « annoncer » sont bien des actions d'une personne. Et enfin, un dernier verset dans Romains 8, au verset 27, « Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Et là encore, il est clair qu'une chose ou une force ne peut pas penser. Il y a encore beaucoup de versets dans l'Écriture qui montrent que le Saint-Esprit est une personne. Et pourquoi est-ce si important que le Saint-Esprit soit une personne ? Alors, que l'Esprit soit une personne, ça va déjà avoir un effet sur notre vie et notre comportement. En nous habite une personne qui connaît nos cœurs, qui connaît nos pensées. Il est une personne qui voyage, si vous voulez, qui voyage avec nous. Il va où nous allons. Il voit ce que nous regardons. Il entend ce que nous écoutons. Et il est saint. Il ne faut pas penser pour cela qu'il soit comme un espion dans notre vie. mais sa présence qui est en nous doit nous faire réfléchir. Cela doit nous encourager à vivre selon une manière qui lui plaise. On ne peut pas se servir de lui, on ne peut pas lui donner des ordres. C'est plutôt lui qui nous guide. C'est lui qui nous montre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et puis l'Esprit Saint est Dieu. Là aussi, la Bible l'affirme clairement. Et on va voir que quelques versets, il y en a beaucoup d'autres. Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout, en tous. L'esprit et Dieu sont là synonymes. Puis dans le psaume 139, au verset 7, on lit « Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ?» Et si on ne peut pas s'éloigner de l'esprit, cela veut dire quelque part qu'il est omniprésent. Et l'omniprésence, c'est un attribut de Dieu seul. L'esprit est aussi omniscient, il connaît tout. Et encore une fois, c'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, quand on saisit que l'esprit et Dieu, qu'il est divin, ça va certainement avoir un impact sur notre façon de le considérer. Alors quand la Bible nous dit qu'il faut considérer Dieu avec crainte et tremblement, ça s'applique aussi au Saint-Esprit. Alors souvent on est enclin à attribuer au Saint-Esprit nos propres idées, nos propres désirs. L'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a montré. Vous avez déjà entendu ça. Oui, l'Esprit nous parle. Mais ayons un peu de respect pour ce qu'il nous dit et comment il nous le dit. On ne peut pas se servir de lui seulement pour mettre un cachet officiel sur nos plans. Ça ne marche pas comme ça. Il est Dieu. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, ayant dit ça, on va voir un peu ce chapitre 2 des Actes. L'Église équipée. Vous savez certainement que je bricole un peu. C'est un secret pour personne. Mais moi, il me semble que j'ai jamais le bon outil dans les mains. Et si vous regardez ma boîte à outils ou mon établi, vous allez tout de suite comprendre. Elle est en désordre parce que jamais je remets les choses à leur place. Jamais. Et je perds la moitié de mon temps à chercher l'outil qu'il me faut. Et parfois, pour finir, j'utilise autre chose, quelque chose qui n'est pas adapté. Mais pour bien travailler, il faut le bon outil. Et avant la venue de l'Esprit-Saint, les disciples, ils n'avaient pas les outils qu'il fallait pour répondre à la commande de Jésus et aller faire de toutes les nations des disciples. Ils avaient l'enseignement de Jésus, ils avaient l'ordre d'y aller, ils avaient certainement même le désir d'obéir à cet ordre, mais il leur manquait quelque chose. Il leur fallait attendre ce quelque chose. L'Esprit Saint qui avait été promis. Et enfin, le jour est arrivé, les disciples se trouvent tous ensemble dans le même lieu, et l'Esprit est donné comme nous l'avons lu. La puissance de Dieu est descendue sur eux. Elle est arrivée pour les équiper, afin qu'ils effectuent la mission pour laquelle Jésus les avait préparés pendant les 3 années précédentes. Le jour de la Pentecôte était une journée exceptionnelle. une journée qui marquait une ère nouvelle dans la relation entre Dieu et son peuple. Avant ce jour-là, l'Esprit Saint n'habitait pas, comment dire, à plein temps, le peuple de Dieu. Quand on lit l'Ancien Testament, on remarque que l'Esprit avait été donné à certaines personnes, à des moments précis, pour des tâches précises. Et puis il semble qu'il soit parti. À la Pentecôte, l'Esprit est venu habiter pleinement, en permanence, dans les chrétiens. Et c'est dans cette ère nouvelle que nous sommes aujourd'hui. Quand vous êtes devenu chrétien, enfant de Dieu, vous avez été rempli de l'Esprit Saint. Vous l'avez en vous. Vous avez été et vous êtes équipé pour prendre votre part à la mission de l'Église, faire de toutes les nations des disciples. Et dès le début, l'Église a été une Église missionnaire. Sa mission n'a pas changé au fil des années. Vous serez mes témoins. Ces paroles de Jésus sont aussi pour nous, ici, aujourd'hui, parce que nous avons l'Esprit. Alors soyons encouragés. Jésus équipe pour évangéliser le monde ensemble. J'ai du mal, hein ? Personne n'est responsable tout seul pour toute la mission de l'Église. Chacun a sa part, mais nous n'agissons pas avec notre propre force pour vaincre ce monde. Nous avons avec nous la puissance venue des cieux. L'Église est équipée, donc. Maintenant, voyons que l'Église est unie. Alors, on a lu que les disciples ont reçu le don de parler en d'autres langues. La multitude est attirée par le bruit. Les gens étaient intéressés d'entendre et de voir quelque chose d'aussi bizarre. Luc, qui a écrit le livre des Actes, dans son récit, mentionne 15 pays. Bien sûr, on trouvera la France. Mais c'est une liste qui regroupe toutes les nations plus ou moins connues du monde de l'époque. Et chacun entend parler de la gloire de Dieu dans sa propre langue, sa langue maternelle. La foule est étonnée. Vous ne pensez pas qu'il y a de quoi ? On serait étonné aussi, hein ? Non seulement ils entendent parler leur propre langue, mais c'est des Galiléens qui parlent leur propre langue. Et les Galiléens, selon l'opinion populaire de l'époque, c'était des gens simples, sans éducation, en un sens on dirait aujourd'hui brutes de décoffrage. C'est donc un véritable miracle. J'ai un trou dans mes notes. Alors au-delà de cela, ces divers langues nous montrent que l'Église est unie. Il n'y a qu'une seule Église de Jésus-Christ, même s'il y a des assemblées partout dans le monde qui parlent toutes les langues. À la Pentecôte, Dieu nous montre que l'Église ne connaît pas de frontières. Avant la Pentecôte, les disciples croyaient que Jésus rétablirait le royaume d'Israël, une seule nation, une seule langue, un seul Dieu. Ça rappelle quelque chose, ça, non ? Après la Pentecôte, l'intention de Dieu est devenue beaucoup plus claire. Le royaume de Dieu sera établi pour chaque nation, pour chaque langue. L'Église de Dieu dans le monde entier est unie, unie par un même esprit. Et un peu plus tard, Pierre cite le prophète Joël. Cette prophétie nous montre aussi que dans l'Église, nous sommes unis. Chacun qui appartient à Jésus reçoit l'Esprit Saint, adultes et enfants, hommes et femmes, fils et filles, jeunes et vieux, maîtres et serviteurs, tous ont le même esprit. Il n'y en a pas un qui en reçoit plus qu'un autre. Ni son âge, ni son arrière-plan social, ni son genre ne changent le fait qu'un chrétien soit habité et équipé par l'Esprit. Nous sommes tous habités par le même esprit. Or que le monde voit que nous sommes unis pour la gloire du Père. Ensuite, cette Église qui est équipée et qui est unie, elle évangélise. J'imagine qu'entre l'Ascension et Pentecôte, Pierre et les autres disciples ont bien réfléchi à tout ce que Jésus leur avait dit. Et Pierre a même peut-être pensé et préparé ce message, comment il allait expliquer ces choses. Et au jour de la Pentecôte, le jour est arrivé, le moment est arrivé, il y avait une grande foule, toute excitée et qui posait des questions. Elle était prête à entendre l'explication de ce qui se passait. Et Pierre, qui se présente avec les onze, alors je ne sais pas comment, mais il y avait Pierre et puis ils étaient tous là, quoi. Il élève la voix et leur parle. Et au centre de son message, on trouve quoi ? On trouve le Fils de Dieu, la vie parfaite de Jésus. On trouve Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ glorifié et son esprit répandu. Et Pierre dit aussi comment il faut réagir après avoir entendu cela et après cette nouvelle. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'Évangile ne laisse pas neutre. L'Évangile demande toujours une réponse et donne toujours un espoir. Et le message de l'Évangile n'a pas changé depuis tant d'années. Et le besoin d'une réponse à l'Évangile non plus. Et en tant qu'Église, nous avons le devoir de proclamer ce message. Et pour délivrer un message, il faut savoir ce dont on parle. Il nous faut peut-être un petit peu de préparation pour que nous puissions partager ce message quand l'occasion arrive. Cela parce qu'on ne peut pas expliquer ce qu'on connaît mal. Et Pierre nous dit, ce même Pierre, « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » C'est à chacun de nous de pouvoir expliquer la foi que nous professons. Et il n'y a pas besoin d'un diplôme de théologie pour cela. Simplement la compréhension de ce que Jésus a fait pour nous. Et le message de Pierre à la Pentecôte peut servir de modèle, au moins pour les points importants. La vie parfaite de Jésus, sa mort, sa résurrection et sa glorification, et son esprit répandu. Or, l'Église a évangélisé par la voix de Pierre, et l'Église grandit. Alors Pierre annonce l'Évangile ce jour-là et la foule répond. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Magnifique. Imaginez-vous un instant ce qui se passerait à l'occasion d'un cœur pour Lyon s'il y en avait 3000 qui se convertissaient. Déjà bêtement, il faudrait agrandir les murs de l'église. Il y aurait un problème. Jean a dit que quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Pierre a annoncé l'évangile, l'Esprit a convaincu la foule. Et aujourd'hui, nous annonçons le même message, et c'est l'Esprit qui peut convaincre ceux qui l'entendent. Et cela devrait quelque part nous soulager. Notre responsabilité, c'est d'annoncer clairement l'Évangile. Et de cela, je pense que nous sommes tous d'accord. Mais on n'est pas responsable des résultats. Si quelqu'un devient chrétien, c'est parce que l'Esprit parle à son cœur. Et pas parce que nous sommes habiles et éloquents. Dieu peut faire passer son message par des gens timides et hésitants, aussi bien que par un prédicateur connu. Quand même un petit commentaire, quand on présente l'Évangile, souvent on hésite à la fin. On ne veut pas aller trop vite, on ne veut pas bousculer les gens, on veut les respecter, c'est raisonnable. Et on hésite à dire « repentez-vous et croyez ». Alors il se peut qu'on laisse les gens sans recours. Ils ne savent pas par eux-mêmes comment faire et comment répondre. C'est un peu ce que la foule a demandé à Pierre. Que ferons-nous ? Alors peut-être que si on a une bonne attitude, si on parle avec amour, l'appel à la repentance n'offensera pas et sera salutaire. Alors pour conclure, on va résumer un peu ce jour Pentecôte. L'Église a été équipée par l'Esprit pour sa mission de faire de toutes les nations des disciples. L'Église a été unie par le don de l'Esprit. L'Église a annoncé avec puissance l'Évangile de Jésus et elle a appelé les gens à répondre à ce message. Puis l'Église a grandi parce que l'Esprit a convaincu les gens de leurs péchés, de la justice et du jugement et qu'ils se sont repentis. Or nous aussi, comme les disciples et les apôtres à la Pentecôte, on est équipés par l'Esprit, on est unis par l'Esprit pour qu'on puisse annoncer et proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile de Christ crucifié, ressuscité, élevé et glorifié. Et tout ça pour que ce monde puisse être réconcilié avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu est toujours le même et il est toujours là pour convaincre. Amen.
Antoine, quelle chance as-tu ?